Silence.
Toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre Deux Mers 98.4 FM www.redem.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour Damien, j'espère que tu vas bien. Oui,
ça va bien et toi?
Oui, tu sais bien, hein, c'est ce que je dis souvent, hein, chaque fois qu'on retrouve les auditeurs, c'est un bonheur. Donc du coup, ça va mieux. Dès qu'on les retrouve, ça va mieux. Non, c'est vrai, c'est comme ça. Bonjour, chers auditeurs. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous.
Et on vient auprès de vous pour vous parler des films qui sortent cette semaine au cinéma. Et on va débuter tout de suite, comme souvent, par un film d'animation. C'est une série de courts-métrages qui s'appelle « Pas pareil et pourtant ».
Oui, un drôle de titre, ma foi. Pas pareil, et pourtant. C'est à partir de 3 ans. Oh, j'ai déjà appelé ma petite copine ce matin, la petite copine Naya, là, pour qu'elle emmène son petit frère Léwen. Ouh, ils vont être contents, mes petits copains, là, d'aller voir ça. C'est très joli. Pas pareil, et pourtant. Alors, en fait, ils sont plusieurs, là, hein, plusieurs réalisateurs. Voilà. Donc, il y a quand même, c'est un programme de 4 histoires. Pour évoquer la différence. Ben ça, c'est bien. Que notre couleur ne soit pas la même, que l'on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des a priori, se libérer du regard des autres et réaliser ce pourquoi nous sommes faits. 4 jolis petits spectacles là, petits films. Alors on a Noir et Blanc de Jesús Pérez et Guerre de Coquel qui dure 5 minutes 30. Et oui, on a La Corneille Blanche de Miran Miosic qui dure 9 minutes. On a Le Moineau et l'Avion de Papier de Christophe Englert qui dure 11 minutes. Et on a Le Renard et l'Oisille de Fred et Sam Guillaume qui dure 11 minutes 57. Ce qui fait au total 40 minutes. Hein, 0h 40 minutes. Alors c'est une réalisation suisse, allemande, croate et belge. C'est la nationalité des réalisateurs d'ailleurs. Voilà. Il y a un Suisse, il y a un Allemand, il y a un Croate et il y a 2 Belges, je crois. Voilà. C'est titré, d'ailleurs, on peut lire « La différence est un des trésors de ce monde ». C'est superbe. Voilà. Pas pareil. Et pourtant, c'est bien que les enfants sachent qu'il n'y a pas de différence ou que c'est plutôt justement cette différence qui nous enrichit. Voilà.
Donc, pas pareil et pourtant. Et nous poursuivons maintenant avec Le Chêne, un film de Michel Sédoux et Laurent Charbonnier.
Oui, c'est une aventure, c'est pour la famille. Alors, c'est pas animé, c'est pas un film d'animation. Ce n'est pas un documentaire non plus, c'est beaucoup mieux que ça. Effectivement. Alors oui, tu dis deux réalisateurs. Il y a Michel Sédoux, oui, producteur réalisateur français. Il a 46 ans de carrière, 26 tournages à son actif. Dont, sur les 26 tournages, il a 23 productions. C'est bien, on a besoin de producteurs justement. Hein. Le cinéma français a besoin de producteurs. Et puis on a Laurent Charbonnier, tu l'as dit, réalisateur, ingénieur du son, directeur de la photographie, il est français. Il a 26 ans de carrière, il a 12 tournages et ils ont d'ailleurs le César du meilleur documentaire en 2008. C'est une nomination pour le documentaire qui était sorti, lui, en 2007 et qui a eu donc ce César du meilleur documentaire qui s'appelle Les animaux amoureux. Et c'est très, 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 très beau comme documentaire. Si on aime les animaux, il ne faut pas le rater celui-là. On le trouve en DVD, hein. Pas cher du tout, il n'y a pas de souci, facile à trouver. Alors, c'est quoi? Mais c'est l'histoire, en fait. Il était une fois, on peut commencer comme ça. Il était une fois l'histoire d'un chêne vieux de 210 ans, devenu un pilier dans son royaume. Ce film d'aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun. Il y a des écureuils, il y a des balanins, il y a des geais, il y a des fourmis, il y a des mulots, etc. Ils sont tous là. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu'à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s'exprimer. C'est magnifique, magnifique. Il faut découvrir d'ailleurs, c'est écrit, un arbre extraordinaire et ses habitants. C'est vraiment magnifique. Hein. Ce film, en fait, est une occasion inédite de plonger les spectateurs dans le monde sensoriel et poétique du roi des arbres, de faire découvrir avec poésie la biodiversité qu'il génère et qu'il abrite. Les animaux petits et grands, insectes, oiseaux et mammifères, sont les héros par le prisme desquels nous allons comprendre combien cet arbre nourricier est essentiel. C'est vraiment ce film, c'est une immersion complète au cœur d'un arbre. C'est sans commentaire en voix off. Hein. Il s'agit ici, nous disent les réalisateurs, il s'agit donc de prendre un propos documentaire et de le raconter avec le savoir-faire narratif et technique des longs métrages de fiction. Il pourrait s'agir d'un récit naturaliste de cinéma. Voilà ce qu'ils nous disent. Mais peu importe la dénomination ou le genre dans lequel classer le film, l'intention première est de montrer au spectateur quelque chose qu'il n'a jamais vu. Ah, c'est vraiment très très beau. C'est voilà, dire c'est beau d'ailleurs, c'est un euphémisme, c'est magnifique.
C'est
Ça
ça.
dure 1h20.
Les
C'est
images
une
sont très
sélection.
très belles.
Oh, c'est magnifique. C'est une sélection officielle hors compétition avec une nomination à la Berlinale 2022. Ah oui, alors à moi, ça, je regrette de ne plus avoir de petits, des enfants avec moi parce que là, je me précipiterai avec eux pour aller voir le chêne. Ah, c'est sûr. Hein. Alors on peut dire à partir de 7 ans, on peut dire. Bah, c'est bien pour ma petite copine, ça, Naya. Bah oui, à partir de 7 ans, c'est ce qu'ils nous disent, c'est ce que les réalisateurs préconisent. C'est très, 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 très beau. Toute la famille peut se régaler absolument. N'est-ce pas, Damien?
Ah
Tu as
oui,
vu
je suis
les
d'accord.
images?
Donc le chêne de Michel Sédoux et Laurent Charbonnier.
Oui, j'espère qu'ils en feront d'autres comme ça. Hein. Oh là!
Et maintenant, nous allons retrouver une comédie réalisée
Oui!
par François de Sagna, et je sais que tu aimes beaucoup ce réalisateur.
Oui.
C'est l'adaptation d'un livre, d'une BD de Fab Caro, qui
Oui.
s'appelle Zaï 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 Zaï. Et ce n'est
Ah
pas la
oui.
chanson de notre ami Joe Dassin.
Oui, on a envie d'ailleurs de dire zaï 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 la 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 zaï 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 zaï. J'avoue, mes chéris, que quand j'ai lu le titre, je l'ai chanté. C'est parti. La musique est partie malgré moi. Parce que c'est très célèbre. C'est une première ligne. Il y a 4-5 notes là, qui sont très très célèbres. Mais c'est quand même le titre, il n'y a pas de doute. Ça dure 1h22. Donc tu l'as dit, hein, comédie française de François de Sagna, réalisateur scénariste français. Voilà, il a 48 ans. Il a travaillé avec Jean-Luc Gaget, qui est un scénariste réalisateur tout à fait connu dans le monde du cinéma. Alors, François de Zagna, il a 22 ans de carrière, 14 tournages à son actif. Il a un prix, 4 nominations. Il a eu d'ailleurs, on lui doit en 2016, Adopte un veuf, qui a eu le prix spécial du jury au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Il y avait André Dussolier, Bérangère Krief dans les rôles principaux. C'était très, très amusant. Adopte un veuf, très, très amusant. Et puis là, donc, Zaï 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 a eu une nomination au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2021, la belle sélection officielle. Décidément, François de Zagna est un habitué de l'Alpe d'Huez, le Festival international. Tant mieux pour lui, bien sûr. Alors, Zaï 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 Zaï, c'est Fabrice. C'est l'histoire de Fabrice, qui est un acteur de comédie et qui réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité alors qu'il fait ses courses. Malgré la menace d'un vigile, il parvient à s'enfuir. Commence alors une cavale sans merci pour celui qui devient rapidement l'ennemi public numéro un. Alors que les médias s'emparent de l'affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu quelque part en Lozère. C'est une histoire abracadabra, un truc incroyable. C'est rare, hein, ce genre de film, de comédie. C'est très rare. C'est peut-être ce qui en fait d'ailleurs la valeur, là. Alors, on a Julie Depardieu. Et oui, on a Jean-Paul Rouve. Ben, c'est Fabrice d'ailleurs, Jean-Paul Rouve. On a Ramzi Bedia, on a Yolande Moreau, Julie Gaillet, Camille Solal, Jeanne Arène, on a Marc Rizzo. Marc Rizzo, ah ben en ce moment Marc Rizzo, mes chéris, si vous regardez des séries, je crois que c'est sur la 1 d'ailleurs, la série Je te promets qui passe en ce moment, eh bien Marc Rizzo, c'est le Tanguy. Tanguy, c'est le compagnon de Marie-Lou Berry dans le film, qui s'appelle Maud dans cette série. Mais c'est lui, Marc Rizzo. Moi, je ne le connaissais pas trop. Et j'ai vu deux épisodes, je crois. J'en ai regardé deux. Je ne suis pas très série, mais là, j'ai un peu regardé. Marie-Lou Berry m'intéresse comme actrice. Je la trouve assez formidable. Et j'ai découvert un acteur qui vaut vraiment la peine. Il est plein de talent, ce Marc Rizzo-là. Vraiment. C'est un casting très sympathique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Damien. Mais vraiment,
oui, c'est très sympa.
C'est,
ça. Mmh,
tout à c'est fait. Des acteurs qu'on connaît, qu'on aime beaucoup, qui sont pleins de talent. Bon, ben, c'est bien agréable quand même. Hein. Alors en fait, tu as parlé justement de la BD de Fab Caro. Alors Fab Caro, on peut l'appeler aussi Fabrice Caro, mais normalement c'est Fab Caro, effectivement. C'est un auteur de bande dessinée français, tu l'as dit, hein, il a 48 ans. Et donc François de Zagna possédait cette BD, et il l'appréciait vraiment, et il l'offrait d'ailleurs régulièrement à son entourage, c'est ce qu'il nous dit, voilà, tellement il l'appréciait. Alors, l'envie de la porter à l'écran était très forte, évidemment. Alors bon, au départ, il a quand même renoncé, parce qu'il a considéré que le projet était un peu fou, inatteignable. Et c'est un producteur, qui s'appelle Thibaut Gast, à qui d'ailleurs François de Zagna avait offert un exemplaire de l'ouvrage, qui lui a proposé de l'adapter au cinéma. Alors voilà, il nous dit François de Zagna que c'était le coup de pouce dont il avait besoin pour être convaincu que c'était possible. Il ne se sentait pas les épaules tout seul, mais là, avec la proposition de ce producteur, ben, ma foi, eh ben, c'est parti. Et du coup, ben, on y a droit aussi, nous. Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Fab Caro, ne connaît pas les BD de Fab Caro. Hein. Après tout, des bandes dessinées, il y en a tellement, on ne peut pas toutes les connaître parfois. Et bien là, ça permet au moins de faire connaissance avec les personnages de Fab Caro, précisément dans ce film qui est tout à fait, comment, ben je, oui, abracadabrant, et l'histoire est abracadabrant, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que je ne trouve pas d'autre mot, l'absurdité peut-être aussi, un peu absurde, mais côté sympathique, hein, bien sûr. Alors, en fait, le réalisateur ne dit, lui, qu'il est très facile de s'identifier au personnage principal de Zaï 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 Zaï. Mais on se demande, dit-il, souvent si on tient bien sa place dans la société, si on fait les choses comme il faut. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans cette obsession. C'est ce qu'il nous dit, hein. La moindre phrase qu'on prononce est analysée, disséquée, critiquée. Ça, c'est pas faux, hein. Ce personnage porte ses craintes et ses angoisses. Il a oublié sa carte de fidélité. Il reconnaît qu'il n'aurait pas dû le faire. Il affirme qu'il le regrette et il essaie d'échapper à ce regard cinglant de la société qui le rattrape. Toute cette aventure à la suite d'un oubli de carte de fidélité. Dis-moi, Damien, est-ce que tu as une carte de fidélité quand tu fais tes courses, toi?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non,
Donc, ça ne
je m'inquiète.
t'arrivera pas.
Je m'inquiète un
Ça...
peu.
Ben moi, j'en ai une. Oh, j'en ai qu'une. Je ne dis pas le nom du magasin parce qu'on va pas. Ils sont nombreux, les magasins. On va pas faire la pub pour un seul magasin. Mais j'en ai une que j'utilise parfois quand je n'oublie pas. Mais je me sens pas quand même, je me sens pas obligée de l'avoir avec moi. Alors, mes chéris, on va réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'utiliser cette carte de fidélité? Ah, voilà. Pardon.
Voilà,
Donc,
donc zaï
voilà.
zaï zaï zaï, on va écouter la bande-annonce tout de suite.
Ah oui, merci.
Allez Fabrice, fais pas le con! Rends-toi et tout se passera bien!
Qu'est-ce que t'as fait?
En fait, j'ai fait des courses, j'avais pas ma carte de fidélité.
Quoi?
Tu oses venir te planquer ici?
Ce matin, j'ai changé de pantalon.
Oui, bien sûr, et comme par hasard.
Bah oui, il était sale.
On arrête de faire le mariole, vous me suivez s'il vous plaît.
Bon! Oh, qu'est-ce que vous foutez? Fais pas le con, lâche le poireau!
Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière.
Vous avez reçu les résultats du labo pour le poireau?
À mon avis, on va le choper très vite. Oui, on peut être très loin.
Fabrice, rends-toi aux autorités compétentes. En même temps, fuis, Fabrice, fuis! Et je ferai en sorte que Gérard, notre fils, puisse grandir avec l'image du père que tu as toujours été pour lui.
Est-ce qu'il est comme nous, le papa de Gérard? Non, pas toi, Malek? Oui, Joey.
Je voudrais que tu dises à Gérard combien je regrette toutes ces parties de Uno que j'ai refusé de faire avec lui.
Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes trompé de numéro, là. Par contre, pour le Uno, je suis un peu comme vous. Au bout d'un moment, ça me gâche.
Le fugitif a été repéré dans un village de Lozère. Il y en a un parmi vous qui parle lozérien?
Moi, j'ai un ami qui a fait la fac.
Ah, il sait parler lozérien?
Non, c'était fac de sciences.
Ah, grave. J'ai cueilli les fleurs et je sifflais tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue.
Excusez-moi, monsieur, ça vous dérangerait de chanter avec nous? Parce que vous cassez un peu la dynamique du départ en vacances, là.
Je la connais pas, la chanson.
Ça fait du stop! Et ça connaît même pas les paroles des chansons!
Et voilà la bande-annonce de Zaï 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 sur Radio Entre deux Mers. On va continuer la conversation autour du téléphone avec un film de
Fred. Autour du cinéma,
oui,
tu voulais
autour
dire.
Du cinéma, pardon. Et oui, du téléphone, car Anne est au téléphone. Et donc, on retrouve là un film réalisé par Frédéric Vidot, qui s'appelle Selon la police. Alors, on change d'ambiance.
Crois-tu? C'est le mot police qui te fait dire ça. Oui, le mot police, c'est pas de la comédie, effectivement. C'est un drame policier français qui dure 1h51, de Frédéric Vidot, qui est un réalisateur scénariste. Il a 22 ans de carrière, 11 tournages. Par exemple, en 2012, on lui doit le film « À moi seul », qui a été très bien accueilli avec Agathe Bonitzer et Reda Kateb. Il y a 9 nominations à la Berlinale, pardon, 2012. C'était un... Ah, on peut l'avoir dans sa vidéothèque, franchement, mes chéris, là, on peut l'avoir. Et puis là, selon la police, alors c'est quoi? C'est un matin, un flic de terrain, usé jusqu'à la corde, que tous dans son commissariat appellent ping-pong, brûle sa carte de police et disparaît sans prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais chaque heure qui passe rapproche un peu plus ping-pong de son destin. Alors, on a Patrick d'Assumpção qui joue le rôle de ping-pong. Il est assez extraordinaire dans ce rôle, d'ailleurs. Cet acteur qui est, au demeurant, qui est un excellent acteur. On a Laetitia Casta. On a Jean-François Thévenin. Et cette fois, c'est vraiment son dernier film. C'est sa dernière apparition Jean-François Stévenin, hein, qui est décédé le 27 juillet 2021. Et à propos de Jean-François Stévenin, excusez-moi, j'ai la voix qui part, le réalisateur nous dit « Ma seule consolation, c'est que j'ai pu lui montrer le film ». Je me souviens encore de son arrivée devant la salle où le film était projeté. Il était en perfecto, Santiago et bague au doigt, tel un rocker céleste. En parlant de Jean-François Stévenin, qui manque beaucoup au cinéma. On y a donc dans ce film, on a également Sophia Le Sabre, on a Simon Abkarian. Tu sais Simon Abkarian, Damien, tu te souviens que c'est celui qui me file un peu les chocottes certains films.
Je vois très très bien qui c'est, oui.
Il est excellent. C'est un très grand acteur, Simon Abkarian. Donc c'est un joli casting. Selon la police, bon, c'est pas une comédie, mais c'est un joli casting en tout cas. Et drame.
Et ça s'appelle Selon la police.
Mais oui.
Et maintenant, on va rester dans le milieu policier avec le commissaire sûrement le plus connu de tous les commissaires français. C'est Maigret, film réalisé par Patrice Lecomte, avec notamment oui. Gérard Depardieu.
Ah oui, dans le rôle titre. Mais oui, tu peux... Oh là là, excusez-moi. Tu peux dire même que Maigret est connu dans le monde entier, ce personnage. C'est vraiment, ah bah oui, Maigret, c'est quelque chose. Donc, policier, tu l'as dit, Patrice Lecomte, bah on le connaît, Patrice Lecomte, réalisateur, scénariste, il est cadreur français, bon, il a 74 ans, 59 ans de carrière, 61 tournages, il a quand même en tout, oh, il a dû avoir 5 ou 6 prix, 58 nominations, oui, dont 3, oui, c'est ça, 3 plus 8. Ouais, 8 nominations pour le film Ridicule, qui est sorti en 1997, qui est vraiment un film magnifique, superbe, qui a eu le César de la meilleure réalisation, meilleur film français de cette année 97, meilleur film non anglophone. C'est pareil, hein, il faut... pardon, c'est plutôt bien de l'avoir dans sa vidéothèque pour le regarder de temps en temps, ce film, vraiment. Ça vaut la peine. Et puis, il a eu aussi un prix, le prix Louis Deluc en 1990 pour Le mari de la coiffeuse. Il y avait Jean Rochefort, qui était le mari d'ailleurs, qui était le mari de Anna Galiena. Pareil, un film, un très très beau film. Il avait aussi, il y a Voir la mer aussi, en 2011, il a eu un Swan d'or du meilleur réalisateur pour Voir la mer, avec Pauline Lefebvre et Nicolas Giraud. En 2016, c'était aux Rencontres internationales du cinéma de patrimoine. Il a eu un prix, le prix Henri Langlois d'honneur comme réalisateur. C'est un très 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 beau prix, hein. Le prix Henri Langlois, c'est vraiment ça, c'est quand même... Alors, Maigret, ah oui, il a quand même aussi travaillé pour Patrice Lecomte avec Jérôme Tonnerre, qui est un scénariste dialoguiste qui travaille avec lui depuis 1983 en fait, Jérôme Tonnerre, pareil, très connu dans le monde du cinéma. Donc là, on a Maigret. Nous sommes dans les années 1950. Hein. Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier. Personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante qui ressemble étrangement à la victime et qui réveille en lui, le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime. On nous dit que c'est l'enquête la plus personnelle de Maigret, cette enquête-là sur la mort de cette jeune fille. Donc tu l'as dit, hein, Gérard Depardieu, on l'a dit, rôle-titre Maigret. On a Jade Labeste, on a Mélanie Bernier, on a Aurore Clément, on a André Wims. Alors André Wims, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, à la radio Entre deux mers, on a parlé de lui, mais c'était quand il est décédé, le 9 février 2022. Donc on lui a rendu un hommage, hein, sur la radio. Il avait 74 ans. Il est dans ce film, d'ailleurs, dans une scène très chouette. Ouais, André Wims. On a Hervé Pierre dans le film. On a Anne Loiret, Alors, Anne Noiret, c'est Madame Maigret dans le film. On a Elisabeth Borgine, grande comédienne aussi. On a Bertrand Poncé, Clara Antunes. C'est un très, très beau casting. Vraiment. Alors, c'est titré « Depardieu au sommet de son art ». Maigret, comme vous ne l'avez jamais vu, la rencontre d'un grand acteur et d'un grand rôle. Mais tous les acteurs sont très bons dans ce film. Depardieu, ben on le connaît, Gérard Depardieu, on sait que c'est un immense acteur, mais ils sont tous excellents, hein. Tous vraiment excellents. Alors, il est adapté, bien sûr, le film, hein, du roman Maigret et la jeune mort de Georges Simenon, qui est le père de Maigret, n'est-ce pas, Georges Simenon. Il a été publié, d'ailleurs, ce livre en 1954. Alors, ce récit-là, c'est une des œuvres, d'ailleurs, les plus crépusculaires, hein, de Georges Simenon. Et le réalisateur Patrice Lecomte nous dit que, avec justement le scénariste Jérôme Tonnerre, nous partageons, dit-il, la même admiration pour Simenon. Et assez naturellement, on a eu envie de se replonger dans cet univers. Et alors, c'est là que Jérôme m'a fait remarquer, nous dit Patrice Lecomte, que Maigret n'avait pas été incarné au cinéma depuis 1958 avec Jean Gabin. On allait donc adapter un Maigret. Mais on voulait que l'intrigue se déroule à Paris parce que, à mes yeux, ajoute Patrice Lecomte, Maigret est rattaché à certains lieux, emblématiques, comme évidemment le quai des Orfèvres ou bien les Batignolles. On est tombé sur un Maigret, et ce Maigret la jeune morte, que je ne connaissais pas, nous dit Patrice Lecomte. Et quand il l'a lu, il s'est imposé comme une évidence. C'était cette histoire, il ne la connaissait pas justement. Elle est peut-être moins connue que les autres, que l'affaire Saint-Fiacre par exemple, ou des récits plus connus quand même. Oui, ça c'est possible. Ah oui, c'est vrai que Jules Maigret a souvent été joué au cinéma, à la télévision. À la télévision, ben oui, par exemple, il y a eu sur 14 ans 54 reprises, et c'était Bruno Kremer qui jouait le rôle de Maigret. C'était pendant les années 1990. Et Jean Richard aussi, qui s'est glissé 88 fois dans ce costume de policier, dans une série qui a commencé en 1967. Ça, c'est pour la télévision. Sinon, au cinéma, bah oui, le personnage, on l'a vu, il a été représenté par Pierre Renoir dans La nuit du carrefour. C'était Jean Renoir, d'ailleurs, son frère, qui avait réalisé le film en 1932. Et puis, à trois reprises par Jean Gabin. Et puis, voilà. Donc, ça fait du bien de retrouver Maigret au cinéma, finalement. Ça fait beaucoup de bien.
On le retrouve donc dans le corps de Gérard Depardieu. Et c'est pas mal.
On est content aussi de retrouver Gérard Depardieu. Tu ne trouves pas, Damien ?
C'est ça, c'est agréable, tout à fait, oui. Et on va écouter la bande-annonce de Maigret. De oui. Patrice Lecomte.
Merci.
La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant.
Qui est chargé de l'enquête ?
Maigret, brigade criminelle, 36 quai des Orfèvres. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue. Mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part.
Comment vous faites pour qu'ils parlent, vos suspects ?
Rien. Je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité.
Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie ?
Ça m'aide un peu à comprendre, une fille comme toi.
Elle s'appelait Louise.
Pourquoi avez-vous dit « elle s'appelait » ?
J'ai entendu une auto s'arrêter.
Concentre-toi sur les chauffeurs de taxi, sur tous ceux qui font la nuit.
C'est pour la fille morte que vous faites tout ça.
Il faut se protéger, ne pas être insensible.
Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien, vous savez.
Je sais, monsieur Kaplan. À la longue, c'est obligé, puis de forger une carapace. Puis un jour, au détour d'une affaire banale, t'es touché par un détail. Alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup.
Et nous continuons toujours dans la conversation autour du cinéma avec Anne, avec un film de Maria de Medeiros. Ça s'appelle « À nos enfants ».
Oui, on la connaît bien, Maria de Medeiros. Hein, on la connaît vraiment.
Et si je ne me trompe pas, elle a...
Pardon ?
Est-ce que je me trompe si je dis qu'elle a également été chanteuse ?
Oui, tout à fait. Mais elle sait tout faire, Maria de Medeiros. Elle sait tout faire. Elle est réalisatrice, scénariste, actrice, chanteuse, oui, franco-portugaise. Mais oui, elle est tout à fait charmante. Elle est très douée. Elle a 56 ans. Elle a 39 ans de carrière, s'il vous plaît, quand même. Et elle a donc 111 tournages, dont 101, je crois, 101 rôles d'actrice sur ces 111 tournages. Et comme réalisation, elle a 3 courts-métrages entre 1987 et 2004 et elle a 7 longs-métrages entre 1991 et 2022, puisqu'elle a celui-là, À nos enfants, 2022. On lui doit Capitaine d'Avril en 2001, qui a eu 3 nominations, avec Stefano Accorsi et Joaquin de Almeida, qui sont 2 acteurs très connus. Donc là, on est dans un drame, c'est romancé et c'est brésilien. Ça dure 1h47. C'est l'histoire de Vera, qui a combattu la dictature dans les années 70 et qui s'occupe aujourd'hui, à Rio, d'un orphelinat pour enfants séropositifs. Sa fille Tania essaie depuis plusieurs mois, avec sa compagne Vanessa, d'avoir un enfant par PMA. Entre elles deux, un fossé s'est creusé, c'est-à-dire entre Vera et sa fille Tania. Alors on a dans les rôles Marietta Severo, on a Laura Castro, Marta Nobrega, on a José de Albreu. Ce sont des acteurs brésiliens, de très très bons acteurs brésiliens. C'est quoi ? C'est un amour, c'est une famille, c'est un combat à nos enfants. C'est un beau film. Il y a une pièce en fait, hein, il y a eu une pièce de théâtre pour nos enfants de Laura Castro. Alors Laura Castro, c'est l'actrice qui, je viens de la nommer, hein, qui incarne Tania dans le film. Et en fait, la cinéaste Maria de Medeiros a elle-même joué au Brésil dans cette pièce. D'ailleurs, elle nous dit « J'ai reçu la pièce en 2013. C'est un dialogue entre une mère et sa fille, un long dîner assez arrosé. La mère est tout, sauf une conservatrice. Elle est passée par la guérilla, la prison, la torture et l'exil. Et aujourd'hui, elle s'occupe d'orphelins séropositifs. » Alors quand sa fille, effectivement, vient lui annoncer qu'elle attend un bébé, la mère pense d'abord qu'elle est désormais hétérosexuelle. Mais non, lui répond sa fille, le bébé est dans le ventre de ma compagne et c'est la limite de l'ouverture d'esprit de cette mère. Et Maria de Medeiros nous dit, j'avais trouvé la pièce intéressante parce que c'est un dialogue entre deux personnages très intelligents qui ont des arguments très valables des deux côtés. Là, ce qu'on peut dire sur ce joli film, À nos enfants.
À nos enfants, Maria. Donc, de Maria de Medeiros.
Voilà, Maria de Medeiros.
Et maintenant, on va retrouver Mark Williams 2 pour le morceau Blacklight.
Oui, Blacklight. Oh, bah alors là, ça bouge. Hein. Ça dure 1h48, c'est de l'action. Il y a du thriller. C'est américain, chinois, australien. Alors, Mark Williams 2, c'est un réalisateur, scénariste, producteur américain. Il a 25 ans de carrière, 21 tournages. Il a surtout, en fait, il est surtout connu comme producteur et comme producteur délégué et comme producteur exécutif. Blacklight. Alors Travis Block, ça c'est l'histoire, intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Ces méthodes impliquent souvent la manière forte. Quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du bureau, il comprend qu'il est devenu le pion d'une terrible machination. Déterminé à faire éclater la vérité, il se lance dans un combat contre ceux avec lesquels il a l'habitude de travailler. Mais lorsque ses adversaires s'attaquent à ses proches, Travis retrouve ses méthodes. Enfin non, il les retrouve, mais il les retourne également, c'était vrai, ses méthodes contre ses anciens employeurs. Et il n'aura aucune pitié. Alors, l'acteur principal, c'est Liam Neeson. Oh, ben on le connaît, Liam Neeson, bien sûr. Bon, là, il est très vif. Mais je ne savais pas, j'étais persuadée, moi, qu'il était plutôt américain. Eh bien, pas du tout. Liam Neeson est irlandais. Je ne sais pas si tu savais, toi, Damien. Il est irlandais, ce grand acteur. On a Aidan Quinn, on a Amy River Lampman dans les rôles principaux. Ce sont tous des acteurs américains en dehors de Liam Neeson. Non, on a aussi Claire Vanderboom qui est une actrice australienne et Yael Stone qui est également un acteur australien. Voilà, on a des. Alors bon, ben c'est pas le même genre que tous les films dont on vient de parler. Hein. C'est tout à fait. Le scénario d'ailleurs de Blacklight s'inspire des activités du Contel Pro. Le Contel Pro, c'est le programme de contre-espionnage dans les années 60 et 70. C'est une série d'opérations secrètes et illégales orchestrées par le FBI et destinées à surveiller, infiltrer, discréditer et perturber les organisations politiques américaines. Et Mark Williams, le réalisateur, nous dit que c'est une page intéressante de l'histoire des États-Unis qu'on a un peu oubliée, si bien que j'en ai repris des éléments et que je les ai intégrés au contexte d'aujourd'hui. Tout ce qu'on sait sur Blacklight.
Très bien, donc ça s'appelle Blacklight. Et maintenant, oui. Ça va être un film de François Favreau qui s'appelle Compagnon au pluriel.
Oui. Oui, Compagnon au pluriel, oui, François Favreau, tu le dis, réalisateur, scénariste, dialoguiste, qui a travaillé avec Joanne Bernard, qui est une scénariste dialoguiste. Ils ont l'habitude quand même hein, de travailler ensemble. Alors lui, François Favreau, il a 25 ans de carrière, il a 10 tournages comme réalisateur et comme scénariste. À son actif. Il a eu une nomination en 2015 pour le film Boomerang avec Laurent Lafitte et Mélanie Laurent, qui a été très bien reçu. Hein, Boomerang, ça a très très bien marché. Pareil, celui-là, mes chéris, vous pouvez l'avoir dans votre vidéothèque sans avoir honte. C'est vrai. Alors là, Compagnon, bah, c'est de la comédie, c'est du drame aussi, c'est français, ça dure 1h50. Et on nous dit quoi ? Qu'à 19 ans, passionné de street art ou art urbain. Alors, c'est le street art ou l'art urbain, c'est, il faut savoir que bon, j'ai appris quand même des petites choses là. Ça date de la fin du XXe siècle. C'est comme un mouvement artistique et c'est un mode d'expression artistique parfois extrêmement bluffant. Le but étant de faire passer un message sans autorisation. C'est ça le street art. Ou l'art urbain. Street, c'est le trottoir, hein, l'art du trottoir. Enfin, dehors des rues. L'art de la rue, plutôt. Street, c'est la rue, c'est pas le trottoir, c'est la rue. Donc, c'est l'art de la rue. Et c'est ce qu'on voit parfois sur les murs. C'est bluffant, parce qu'on a l'impression que les personnages existent, qui sont en relief. Tu en as déjà vu, toi, Damien, probablement. C'est des trompe-l'œil.
Oui, tout à fait, oui.
Et c'est pour ça que je dis que c'est parfois bluffant, hein, absolument. Alors Naël, donc, elle a 19 ans, elle est passionnée de cet art et elle est contrainte de suivre avec d'autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d'être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la maison des compagnons de Nantes, un monde de tradition qui prône l'excellence artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul, compagnon vitrilliste, qui accepte de l'apprendre en formation dans son atelier, Naël découvre un univers au code bien différent du sien, qui, malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie. Eh bien oui, c'est ça, hein, le compagnonnage, hein, les compagnons, c'est vrai, c'est l'excellence artisanale. On a, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les compagnons, pour le compagnonnage, pour les gens. Quelquefois, il y a des, il y a à Bordeaux que parfois, il y a des, parfois des comment ça s'appelle là ? C'est un truc qui se fait tous les ans. Enfin là, on l'a pas vu depuis un moment à cause de la Covid là. Mais il y a une exposition, je crois, il y a une grande, grande exposition, et il y a toute une partie qui est réservée aux compagnons, justement. Là, il y a l'ébénisterie, il y a... Et j'ai vu une fois des œuvres extraordinaires, là, qui étaient là, qu'on pouvait voir dans cette exposition. Quelque chose de vraiment fabuleux. Ben, ce sont les meilleurs, normalement, les compagnons, d'ailleurs. Alors, on a dans les rôles principaux, Naels est joué par Najar. On a Agnès Jaoui qui joue le rôle d'Hélène. Hélène qui va s'intéresser à Naël et qui va la conduire vers l'excellence. On a Pio Marmaille. Alors, lui, c'est Paul, le vitrailliste. On a Soriba Dabo. On a Geneviève Minch aussi. Alors, voilà. Mais elle, justement, on l'a vu, Geneviève Minch, elle était déjà dans Ils sont vivants. Le film dont on va parler tout à l'heure, qui s'intitule Ils sont vivants, eh bien on la retrouve dans ces deux films. Elle a deux films, Geneviève Minch. Très bonne comédienne d'ailleurs. On la connaît, on n'a sans doute pas retenu toujours son nom, mais quand on la voit, si on a l'habitude d'aller au cinéma, on la reconnaît absolument tout de suite. C'est quelqu'un. Alors, les compagnons du devoir, eh bien oui, les membres de ce mouvement assurent à des jeunes gens entre 16 et 25 ans une formation à des métiers traditionnels. Leur devise est la suivante : capable, digne, libre et généreux. Chez les compagnons, la transmission se fait autant par l'apprentissage d'un métier que par la vie en communauté. Ainsi, les jeunes cohabitent ensemble pendant la durée de leur formation. L'apprenti est accompagné d'un compagnon référent, son parrain, qui le suivra jusqu'au jour où il deviendra compagnon à son tour. Les autres encadrants, son employeur, le directeur de la maison, qu'on appelle le prévôt d'ailleurs, ou la maîtresse de maison, qu'on appelle la mère, l'accompagnent le temps de son séjour dans la ville, puis l'apprenti ira se former ailleurs, parfois même dans d'autres pays. Alors le réalisateur, là, il met en avant des valeurs comme l'entraide et le travail manuel. Tout à fait. Mais c'est ça, de toute façon, le compagnonnage. Et tous ces métiers, nous dit-il, que l'on a tendance à dénigrer de nos jours, nécessite en réalité un savoir-faire et une expérience considérable. Il ajoute, dans un quotidien individualiste et ultra connecté, ça peut paraître d'abord désuet, mais leur approche généreuse de l'apprentissage m'a beaucoup touchée. Très beau film sur les compagnons. Effectivement, les compagnons peuvent faire le tour, quasiment le tour du monde. Ils peuvent aller dans d'autres pays. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs, la plupart du temps. Dans tous les métiers possibles, tous les métiers artisanaux qui existent. C'est un joli film que nous a réalisé François Favre.
Et ça s'appelle Compagnon. Et maintenant, Compagnon. Nous allons retrouver Alessio Rigoderighi et Matteo Zoppis pour la légende du roi crabe. Alors, c'est qui le roi crabe ?
C'est particulier, ça. C'est un film, moi, je voulais en parler, parce que d'abord, je trouve que c'est un excellent film. Et en même temps, c'est une curiosité, la légende du roi crabe. C'est un drame, c'est historique aussi. Alors, c'est italien, c'est français, c'est argentin. Il y a une co-réalisation d'Alessio Rigoderighi, qui est un réalisateur, scénariste, acteur italien. C'est son premier long-métrage de fiction. Il a 35 ans et il a travaillé avec Matteo Zoppis, qui est un réalisateur scénariste italien. Et c'est il y a trois nominations, il y a deux nominations à la quinzaine des réalisateurs 2021 et une nomination au Festival de Cannes 2021. Ça dure 1h39 et ça se passe où ? Dans la campagne italienne de nos jours. De vieux chasseurs se remémorent la légende de Luciano. Ivrogne, errant dans un village isolé de Tuscany, Luciano s'oppose sans relâche à la tyrannie du prince de la province. La rivalité grandissante entre les deux hommes, alimentée par les passions et la jalousie, pousse Luciano à commettre l'irréparable. Contraint à l'exil dans la lointaine Terre de Feu, alors la Terre de Feu, on rappelle, c'est l'archipel qui se trouve à l'extrémité sud du continent sud-américain. Donc il va jusque-là, il s'en va jusque-là. Et l'infortuné criminel, quand on parle de lui maintenant, l'infortuné criminel, entouré de chercheurs d'or cupides, se met en quête d'un mystérieux trésor enfoui qui pourrait bien être sa seule voie vers la rédemption. Mais sur ces terres arides, seule l'avidité et la folie prévalent. On a Gabriele Cilli dans les rôles, on a Maria Alexandra Lungu, on a Severino Sperandio et on a Bruno Di Giovanni dans les rôles principaux. C'est titré un triomphe de fiction entre récit d'aventure et quête ésotérique. C'est un film lumineux où se dessine un western de l'illimité. C'est une joie pour l'œil. Donc ça a beaucoup plu aux critiques. Hein. C'est une oui. C'est... Alors pendant le tournage, nous dit le réalisateur, les chasseurs nous ont raconté une autre légende. Et nous avons réalisé un deuxième documentaire qui s'appelle Il Solengo. En fait, c'est d'habitude. Il est plutôt dans les documentaires, Alessio Rigo Derighi et Matteo Zoppis aussi d'ailleurs. Mais là, c'est un long métrage de fiction. Hein. C'est le premier, mais cette fois, c'est de la fiction. Alors voilà, ce sont les chasseurs en fait, comme c'est dit d'ailleurs dans le synopsis, qui connaissent toutes ces histoires, toutes ces légendes et qui se les racontent et qui les racontent aussi aux autres, ceux qui viennent là comme ça, qui passent. Et ils racontent leurs histoires. On suppose que c'est autour d'un feu, peut-être. Ou autour de... Je ne sais pas, peut-être autour d'un repas sympathique, là. C'est quand même... Alors, Il y a donc eu deux documentaires. Donc, le Solengo, c'est l'histoire d'un sanglier qui terrorise les villageois. Et puis, il y avait eu Belvanera. Belvanera, c'était l'histoire d'une panthère qui terrorise un village. Ce sont deux documentaires qu'il a réalisés en 2013 et en 2014. Alors, la légende du roi Crabe, c'est quand même très particulier. Hein. La naissance du projet, quoi, nous dit, nous avions peu d'informations sur le personnage du roi Crabe, sur l'époque précise des événements. Nous en avions moins encore sur ce qui lui est arrivé en Amérique. Il a fallu tout imaginer. C'est peut-être pour cela que nous avons progressivement basculé du documentaire vers la fiction. À voir, il faut savoir ce que c'est que ce roi crabe. Ben, il faut aller voir le film pour ça. Eh, mais oui, 1h39, je crois que je l'avais dit, la légende du roi crabe.
Et après, c'est un film de Jérémy El Khaïm que tu vas nous proposer, qui s'appelle « Ils sont vivants ».
Voilà, « Ils sont vivants », où on va retrouver dans les actrices, justement, j'en ai parlé là juste avant, Geneviève Minch, qui joue d'ailleurs Josie, qui joue le rôle de la mère. Enfin, on va voir ça après. « Ils sont vivants », oui, c'est une comédie dramatique, c'est romancé, ça dure 1h52. Et c'est de Jérémy, oui, El Khaïm, mais on le connaît, Jérémy El Khaïm. On le connaît absolument. On le connaît comme acteur et comme réalisateur. Non, parce que là, on va faire sa connaissance justement, puisque c'est son premier long métrage. Réalisateur, scénariste, producteur, acteur, 43 ans, il est français, il a 24 ans de carrière, 52 tournages, dont 50 comme acteur, hein, puisqu'il avait un court-métrage en 2010. Qui s'appelle Manu, un court-métrage de 25 minutes, qui a été très bien reçu d'ailleurs à ce moment-là, avec Valérie Donzelli, qu'on connaît. Et puis là, le premier long-métrage, donc, Ils sont vivants, il y a 4 nominations au Festival du film francophone d'Angoulême, sur les 4 Valois, les prix Valois, hein, c'est-à-dire le scénario, le prix du jury, le prix des étudiants francophones et le prix de la musique de film. 4 belles nominations. Veuve depuis peu, Béatrice, vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien, arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son pays. Alors, c'est une actrice, je crois que tu l'aimes beaucoup, toi, Damien. L'actrice qui a le rôle principal, c'est Marina Foïs.
Je crois
que c'est une actrice que tu aimes beaucoup. Elle joue le rôle, c'est elle, Béatrice, hein, qui vit avec son fils et sa mère. Donc, Mokhtar, qu'elle rencontre et dont elle tombe amoureuse, est joué par Sia Kohi, qui est un acteur franco-afghan. Et puis on a Laetitia Doche, on la connaît Laetitia Doche, on la reconnaît quand on la voit, qui est une actrice franco-suisse. On a Igor Van Dessel, qui est un acteur belge, lui, qui joue le rôle du fils de Béatrice, Florian. On a Antoine Chappet et Geneviève Mitch, justement, qui joue donc la mère de Béatrice. C'est un casting très sympathique. Tout à fait, même. Alors, le film est inspiré par l'auteur du livre « Calais, mon amour ». Et c'est Béatrice Huré qui a écrit ce récit. Eh oui. Alors, voilà, Jérémy El-Kaïm nous dit « Bon, quand j'ai compris que je pouvais traiter cette histoire de façon incarnée et intime, faire vivre les échanges de regards et l'attirance à fleur de peau des personnages, je me suis dit que ça permettrait de mettre le politique dans la chair et l'inconscient du film. Le fait que ce soit le désir charnel et l'acte sexuel qui unissent Béatrice et Mokhtar rend absurde et révoltante l'idée que les lois et les frontières les séparent. Cette puissance politique du désir et des corps m'a passionnée. Oula, voilà ce qui nous explique, ça donne envie d'aller voir le film quand même. Alors il nous dit que pour ce titre-là, Ils sont vivants, c'est une phrase de dialogue et on entend le titre de la bouche de Béatrice à la fin du film. Voilà ce qui nous explique pour le titre, Ils sont vivants. Très, très, très bon film également.
Et maintenant, c'est Kira Kovalenko que nous retrouvons avec Les Poings desserrés.
Ah oui, t'allais dire Les Poings serrés. J'ai fait la même chose quand j'ai lu le titre. C'est vrai que j'ai eu envie aussi, Les Poings serrés. Eh bien non, Les Poings sont desserrés. C'est un drame russe qui dure 1h36. Oui, Kira Kovalenko, tu l'as dit, réalisatrice, scénariste, dialoguiste russe. Elle a 32 ans, c'est son deuxième long métrage. Le premier, elle l'a réalisé en 2016. C'est un drame qui s'appelait Sofichka. Sofichka, c'est l'histoire après un exil stalinien de 20 ans. Sofichka revient dans son village natal. Toute sa vie est passée en revue dans ce film Sofichka. Donc là, le film a quand même 2 prix et 8 nominations. Un prix du cinéma européen, meilleur montage en 2021. Un prix et 6 nominations au Festival de Cannes 2021. Catégorie Un certain regard. Joli prix. Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, on dit tout de suite que l'Ossétie du Nord, c'est une république en fait de la Fédération de Russie qui est située dans le Caucase du Nord. Voilà, pour situer un peu quand même, de cette ville minière qui est en Ossétie du Nord. Il y a une jeune femme dans cette ancienne ville, Ada, qui tente d'échapper à la mainmise de sa famille qu'elle rejette autant qu'elle l'aime. Ada, c'est Milana Agusarova. Milana Agusarova. Si je dis qu'elle est russe, je pense qu'il n'y a pas d'étonnement là. C'est Ada, actrice russe. On a Alik Karaev. On a Soslan Kugaev dans les rôles principaux. Sont des acteurs, mais c'est bien de pouvoir découvrir aussi tous ces acteurs connus dans leur pays et qu'on ne connaît pas trop, justement. C'est pas mal, ça aussi. Alors elle, Kira Kovalenko, l'idée du film, en fait, l'idée initiale du film lui est venue quand elle a lu le roman « L'intrus » de William Faulkner. Alors William Faulkner, je rappelle, hein, c'est un romancier et un novelliste d'ailleurs américain, et qui est décédé en 1962 à 65 ans. En fait, c'était à la suite d'une chute de cheval d'ailleurs. Il a chuté d'un cheval et quelques jours après, il est décédé. Donc elle a, voilà, l'intrus, elle a lu l'intrus, et dans ce roman, il se trouve une phrase qui dit: la plupart des gens ne peuvent supporter l'esclavage, mais aucun homme ne peut manifestement assumer la liberté. Voilà ce qu'elle a trouvé dans ce livre. Alors là, elle explique: j'ai longtemps réfléchi à cette phrase, la liberté existe-t-elle vraiment? Est-ce que j'y crois? Je pense qu'en fait, elle n'existe pas, ou plutôt que des flashs de liberté ne surgissent que lorsqu'il n'y a pas de liberté du tout. Et puis voilà, elle a commencé à relier ça à sa mémoire. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de notre mémoire, dit-elle. Nous ne pouvons pas vivre sans elle. Et le thème de la mémoire est celui de l'impossibilité de liberté que nous voulons récuser, m'ont obligé à me retourner vers certains événements que j'aborde dans le film. Ça donne aussi envie de voir les points desserrés, voir un peu ça, ce qu'on peut faire. Et je trouve que c'est pas mal cette histoire d'avoir des flashs de liberté lorsqu'il n'y a pas de liberté du tout. Comme un prisonnier, par exemple, effectivement, doit avoir des flashs de liberté, justement parce qu'il ne l'a plus, sa liberté. Ça donne à réfléchir quand même. Mes chéris, les points desserrés. Oh oui, un film russe un peu, hein, connaître d'autres acteurs, je disais, d'autres réalisateurs aussi, ça fait du bien. C'est pas mal. Voilà, c'était les points desserrés.
Les points desserrés pour terminer les films, ça va être un film d'Alexandre Kobaridze qui s'appelle « Sous le ciel de Kutaïssi ».
Oui, « Sous le ciel de Kutaïssi ». Oui, décidément, on reste un petit peu quand même là. En fait, non, c'est une comédie dramatique, c'est un drame. Il y a aussi de la comédie en plus. C'est géorgien et allemand. Et d'ailleurs, Alexandre Kobaridze, alors oui, il faut prononcer parce que c'est DZ à la fin. Kobaridze, on va laisser comme ça. Kobaridze, oui, je crois que c'est ça d'ailleurs. Réalisateur, chef monteur, acteur, il est soviétique et géorgien. Hein, il a les deux nationalités. Il a 37 ans. Alors lui, il a réalisé 3 courts-métrages géorgiens entre 2013 et 2017 et 3 longs-métrages aussi, 2017, 2019, 2021, qui sont géorgiens et allemands. Il est acteur d'ailleurs dans 4 films lui-même, géorgiens et allemands. Alors Kutaïssi, là c'est la 3e grande ville de Géorgie, au fait. Hein. La capitale c'est Tbilissi, hein. Tbilissi, c'est la capitale, la plus grande ville. Et la deuxième, je ne sais pas trop, mais la troisième, c'est Kutaïssi, précisément. Donc, ce film a quand même un prix et 8 nominations à la Berlinale 2021. C'est le grand prix du jury de long métrage européen au premier plan d'Angers en 2021. C'est quand même. Ce sont de jolis prix, quand même, aussi, là. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. Alors là, c'est le coup de foudre quand Lisa et Georgie se rencontrent par hasard dans les rues de Kutaïssi. L'amour les frappe si soudainement qu'ils en oublient même de se demander leur prénom. Avant de poursuivre leur chemin, ils décident de se retrouver le lendemain. Ils sont loin de se douter que le mauvais œil leur a jeté un sort. Alors, dans les rôles, le rôle de Georgie est tenu par Georgie Bokorishvili et Lisa, c'est Annie Karseladze. Alors, ce sont des noms pas faciles à prononcer, des noms géorgiens, pas faciles à prononcer. On y arrive quand même. Des acteurs qui sont connus en Géorgie, d'ailleurs, ces deux-là. Alors, le film est titré « Révélation incontestable de cette Berlinale 2021 ». Extraordinaire, une histoire d'amour épique. Les grands films ressemblent à un secret partagé. Donc, la critique a bien aimé. Alors, sous le ciel de Kutaïssi a été sélectionné dans les festivals, dans d'autres festivals également. Hein. Il y a le premier plan d'Angers, on en a parlé. Il y a le festival de Belfort aussi, 2021, compétition internationale, et le festival de La Rochelle, 2021, en sélection officielle. Donc, il s'est bien promené, ce film, et il a été bien apprécié. Alors, le film met en place une histoire d'amour et entretient le suspense pour savoir si elle se concrétisera un jour. Si cette histoire d'amour se concrétisera, c'est pas facile à dire, concrétisera, hein. Si elle sera concrète un jour. Voilà, on va simplifier. Alors, le réalisateur, lui, il nous dit que quand j'étais enfant, je devais souvent porter une pierre de jet, généralement sur ma main, pour me protéger du mauvais œil. Aujourd'hui, presque plus personne ne le fait, et je cherche à savoir pourquoi. Le mauvais œil n'existe-t-il plus, ou est-ce simplement que personne n'y croit ? Alors, il nous dit que, bien entendu, mon histoire ne porte pas seulement sur le mauvais œil, mais aussi, de manière générale, sur les forces bonnes ou mauvaises qui semblent avoir été exclues de notre monde matérialiste et qui se manifestent pourtant de temps à autre. Voilà ce qu'il nous dit. Sous le ciel de Kutaïssi. Allons nous promener un peu en Géorgie. Ça fait une petite balade là-bas quand même, hein, aussi, ça. En même temps. Fait. On peut découvrir.
Et en parlant d'une balade, on peut faire une balade aussi dans la nature, avec notamment un documentaire que nous propose Dartavaz de Pélechian. Ça s'appelle La Nature, oui. Tout simplement.
Tout simplement, voilà, ça dure 1h02. Dartavaz Pélechian, alors lui, c'est un cinéaste arménien, il a 83 ans, il est représentant de l'école du cinéma soviétique. Et alors il a présenté, avant de le présenter dans les salles, son film, il l'a présenté à la fondation Cartier pour l'art contemporain et le film documentaire. Et donc, on connaît un peu la Fondation Cartier quand même. Hein. Elle a été créée en 1984 par la Maison Cartier précisément. Et on connaît Cartier, on sait ce que c'est. Hein. C'est l'entreprise du secteur de luxe qui conçoit et fabrique et distribue et vend des bijoux, des montres, des lunettes, des parfums, des sacs, des portefeuilles, etc. Fondée en 1847 d'ailleurs. Donc là, et ils ont quand même en boîte, la Fondation Cartier, plus de 40 000 documentaires et 20 000 auteurs-réalisateurs quand même, hein, dans leur boîte. Là, dans leur, Alors, c'est un montage d'images de catastrophes naturelles. Et oui, telles que par exemple les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les tsunamis, tous ces événements constituent la trame visuelle du film et sont mis en regard d'images de paysages naturels grandioses, véritables élégies visuelles. Le film dresse le constat sans appel de la supériorité de la nature, force implacable, pouvant surpasser toute ambition humaine. Alors, le film est réalisé à partir d'un montage, hein, effectivement, et il marque un retour à l'un des thèmes favoris de ce réalisateur, Dartavaz de Pélechian, le rapport de l'homme à la nature. Et le cinéaste semble ainsi nous rappeler que l'espèce humaine ne sortira pas victorieuse du désordre écologique qu'elle a créé. Ce monsieur est quand même assez pessimiste. Mais, à mon avis, essayez de choper ce documentaire qui sortira de toute façon rapidement en DVD. Hein. Je crois que ça vaut peut-être la peine un peu de revoir un peu tout ce qui a pu se passer, tout ce qui se passe, tout ce que la nature, tous les tours terribles que la nature nous joue. Hein. Ils sont parfois même absolument dramatiques. La nature. Ça dure 64 minutes. C'est français, c'est arménien et c'est allemand.
Dartavaz Pélechian. Et on va terminer avec un documentaire d'Emmanuel Gras qui s'appelle Un peuple.
Qui s'appelle Un peuple, oui. Alors Emmanuel Gras, c'est un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie français. Il a 46 ans, 10 ans de carrière, 5 tournages, 2 prix, 10 nominations. Oui, il a déjà réalisé des documentaires qui ont été toujours été très bien reçus, tels que Makala en 2017, ça se passe au Congo. C'est Makala qui travaille dur pour sa famille. Il y a le Grand Prix de la semaine, de la critique. Et en 2012, c'était Bovine, qui pouvait se voir d'ailleurs à partir de 6 ans. Un documentaire qui raconte la vie des vaches, la vraie, et qui a le prix du film singulier francophone. Et là, Un peuple, c'est un documentaire qui dure 1h44, documentaire français. Et en octobre 2018, le gouvernement Macron décrète l'augmentation d'une taxe sur le prix du carburant. Cette mesure soulève une vague de protestations dans toute la France. Des citoyens se mobilisent dans tout le pays. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. À Chartres, un groupe d'hommes et de femmes se rassemble quotidiennement. Parmi eux, Agnès, Benoît, Nathalie et Alan s'engagent à corps perdu dans la lutte collective. Pardon. Comme tout un peuple, ils découvrent qu'ils ont une voix à faire entendre. Voilà, je voulais quand même parler de ce documentaire qui est quand même assez intéressant et qui, et si on ne peut pas le choper là, il sortira en DVD assez rapidement. Voilà, et puis je voulais parler aussi d'un film qui va être projeté pas loin là, Damien, si j'ai le temps. Est-ce que j'ai le temps d'en parler ?
Oui, je t'en prie, vas-y.
Voilà. Donc, à Blasimont, ça se passera à Blasimont 33-540. Hein, pour... Ça se passera le jeudi 3 mars 2022 à 20h30. La projection, on aura la projection du film documentaire « Debout les femmes » de François Ruffin et Gilles Perret. Le film est sorti dans les salles le mercredi 13 octobre 2021. Et d'ailleurs, on en a parlé ici, de ce film à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers, Debout les femmes. On en a parlé justement le 13 octobre. La projection aura lieu salle des fêtes de Blasimont et sera suivie d'un débat. L'entrée est gratuite, le pass vaccinal n'est pas obligatoire. Voilà, je voulais pouvoir...
Le signaler.
Donner cette information. C'est un très beau film, hein. C'est quelque chose, c'est très très important d'ailleurs, Debout les femmes, mais oui, c'est un film important. Voilà.
Très bien, et merci beaucoup Anne pour toutes ces sorties cinématographiques en ce mercredi, jour des sorties. Et je rappelle qu'aux auditeurs, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le www.re2m.com dans la catégorie podcast, conversation autour du cinéma.
Oui, merci Damien en tout cas pour ton aide là, pour ton soutien. Mais je suis désolée mes chéris, je regrette, ma voix aujourd'hui m'a un petit peu lâchée. J'espère que ce sera quand même pas trop désagréable. J'ai beau essayer de tousser, je pense que le grand vent ne m'a pas réussi. Le grand vent qu'on a eu ces derniers jours, je suis désolée.
Tu vas pouvoir te soigner donc.
Oui, je vais soigner mes petites cordes vocales. On en a que deux, mais alors c'est des coquines là. Hein. Mais en même temps, bon, ben voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite d'être heureux. Mais oui, soyez heureux le plus possible. Hein. Carpe diem, profitez de la journée du matin au soir. Profitez-en un maximum. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Yeux, tu sais.